RFI. La marche du monde. Valérie Nivelon.
À écouter ou à réécouter, je vous propose une sélection de nos meilleures émissions jusqu'au début du mois de septembre. Kigali, décembre 2016, mise en place du spectacle initié par les ateliers de la mémoire autour du génocide des Tutsis perpétré au Rwanda en 1994. Une mémoire douloureuse à porter pour les rescapés, mais aussi pour leurs enfants. Mais que faire de cette mémoire mortifère qui se transmet de génération en génération et comment sortir de l'insupportable litanie des événements ? Une question à laquelle tente de répondre Soko Faye, historienne de l'art à l'Université Paris 8, en proposant des ateliers artistiques ici au Rwanda, accueillis par Assumpta Mugiraneza, au Centre Iriba pour le patrimoine audiovisuel. À partir des archives du génocide, elles ont invité Olivia Rosenthal et Dorcy Rugamba à diriger un atelier d'écriture pendant plusieurs mois avec un groupe mixte français et rwandais. Retour à Kigali et le spectacle conçu à partir de ce travail littéraire. C'est une fiction, mais c'est aussi un documentaire sur RFI.
Un soir, j'ai vu des vers luisants au bord de la route. J'ai demandé comment on appelait ça ici. On m'a dit, c'est le même mot que pour les étoiles, Inyenyeri. Un mot qui efface la ligne d'horizon. Le ciel descend plus bas, les collines s'élèvent plus haut, les limites s'estompent. J'ai entendu dire que Dieu venait chaque soir s'installer sur les collines du Rwanda pour se reposer. Dernière représentation de retour à Kigali, à l'hôtel des Mille Collines. Le groupe, constitué d'une quinzaine d'artistes, s'est mêlé au public. Chacun leur tour, ils se lèvent comme des pistons pour actionner la parole et dire le récit de fiction travaillé dans l'atelier d'écriture. Une longue maturation portée à son terme grâce à la ténacité bienveillante d'Olivia Rosenthal. La romancière est à l'initiative de l'un des premiers masters de création littéraire de l'Université française.
Et en fait, on a le droit de... On n'est pas obligé de rester sans bouger. Vous vous souvenez, comme dans la vidéo, c'est-à-dire on a le droit de regarder ses papiers, de parler à son voisin. On essaye de ne pas être trop figé dans l'attente de « Ah, ça va arriver, ça va arriver ». Non, non, on est tous ensemble surtout. On essaye de garder cette idée qu'on est bien ensemble. Et voilà, donc on imagine la lumière s'éteint. S'il y a de la lumière, mais j'en sais rien, donc voilà. Enfin, à un moment, ça commence, on verra comment. On dit que tu joues, et voilà, vas-y, maman.
Elle a connu des hommes.
Alors, non, juste. Maintenant, vous faites un spectacle, d'accord ? Donc, c'est...
Ouais, mais arrête de parler aussi.
C'est pas un bouton. Mais... Non, mais c'est le début, ça va aller. Non, mais essaye de... C'est pas... T'es tout de suite au top, tu vois ?
Ouais.
Elle a connu des hommes. Beaucoup. Des hommes qui n'ont en commun que leur enthousiasme pour son corps colossal. Impressionnés d'abord, ils vont à tâtons. Ils rôdent avant de tenter de l'apprivoiser.
Progressivement, il s'approche, cherchant à la cerner. Il la détaille, la scrute, puis il s'avance jusqu'à la frôler.
Pour cet atelier, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vu une première fois 15 jours, puis une deuxième fois 15 jours. Et dans la première session, on a regardé ensemble un certain nombre d'archives du centre Iriba. On a vu par exemple des images qui datent de la période coloniale, donc des images très anciennes, un film sur une chanteuse, on a vu plusieurs choses ensemble. Et après, comme je voyais qu'il y avait certains étaient déjà très avancés dans l'écriture de fiction et d'autres pas du tout, je pense que certains des participants, c'était la première fois qu'ils se lançaient dans un travail d'écriture littéraire. Donc ce que j'ai proposé, c'est de s'appuyer sur une archive qui aurait été choisie par chacun et d'écrire un texte à partir de cette archive.
Et dans ces textes-là, il s'agissait toujours de l'archive que vous avez choisie.
Marianne Hirsch a fondé le terme de post-mémoire. Elle interroge la relation que la génération actuelle entretient avec le traumatisme vécu par la génération qui l'a précédée. Elle est venue rencontrer les artistes de l'atelier.
Il y a des archives qui ont suscité chez certains participants quelque chose autour de leur expérience personnelle. Et je pense même que quelque part, ça pose aussi la question de savoir à quel point l'expérience individuelle peut constituer en soi une archive. C'est-à-dire que quelqu'un qui raconte son histoire, quelque part, il fournit une archive. C'est pas forcément en soi un travail théorique, voilà. Mais moi, quand j'entends certains textes et à travers certains échanges que j'ai pu avoir des participants, j'avais le sentiment que j'avais accès à des archives, en fin de compte.
Donc ça, en fait, la première semaine, elle a été consacrée beaucoup à ça. Et puis, il faut aussi dire que la première semaine, c'était beaucoup un groupe de parole quand même. On a beaucoup échangé sur les expériences des uns et des autres. Alors pour les Rwandais, la situation qui était la leur au moment du génocide, parce que en fait, la plupart d'entre eux étaient déjà nés. Parce qu'au départ, l'idée, c'était de travailler sur des gens qui n'étaient pas nés au moment du génocide, mais en réalité, ils étaient souvent déjà nés. Cécile était la seule qui n'était pas née. Donc, en fait, on a quand même beaucoup échangé autour de ces expériences qui étaient les leurs. Et pour ce qui concerne les Français qui étaient là, aussi d'essayer de comprendre ce qu'ils venaient faire là, quoi. Et en fait, c'est plutôt dans la deuxième session, qui a duré aussi 15 jours, où on a décidé que c'était le moment de travailler sur l'écriture proprement dite. Et en fait, qu'on laisse de côté provisoirement l'histoire du génocide, les archives du génocide, etc. Parce qu'en fait, le sentiment que j'avais, c'est que finalement, d'une certaine manière, ça empêchait d'écrire un peu. Mais l'idée, c'est qu'au lieu de travailler sur les témoignages et de reparler de ce qu'on avait vécu, etc., d'essayer vraiment de travailler là-dessus, mais à partir de textes. C'est déjà beaucoup, en fait, de passer de la réflexion ensemble sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, à on a des textes devant nous. Et bah, comment on les peaufine, comment on les travaille, comment, justement, comme vous dites, quel que soit le point de départ, comment on arrive à faire de la fiction avec. Donc, c'est-à-dire que finalement, la fiction, c'est juste une manière particulière de monter les phrases les unes à côté des autres. La fiction, par exemple, c'est quoi? C'est bah, par quoi je vais commencer? Quelle va être la première phrase de mon texte? Est-ce qu'on commence par le commencement ou est-ce qu'on commence par la fin ou, voilà. Par exemple, ça, pour moi, c'est une question... qui devient une question littéraire, par exemple.
Moi-même, par ailleurs, j'ai écrit un texte qui est une histoire tout à fait personnelle et qui construit des ponts sur des thèmes qui sont communs, sans être issus du même contexte, de la même histoire, mais qui pour autant, sur les questions de l'ordre du deuil, notamment, peuvent construire des ponts entre les différentes histoires.
C'est une histoire de post-mémoire, vraiment. C'est-à-dire cette histoire de deuil, de choses qu'on n'a pas connues, et qui est spécifique au génocide des Tutsis, mais ou au génocide peut-être en général, mais finalement qui renvoie aussi pour certains d'entre nous à des expériences individuelles de deuil particuliers qui font que ça aussi ça crée du lien entre les participants alors que leurs expériences personnelles sont complètement différentes.
Oui, alors il y a eu une discussion que j'ai eue avec Kenny. Et en fait Kenny un jour me dit David, tu peux pas savoir ce que c'est que de faire le deuil de quelque chose qu'on n'a pas connu quand tout le monde nous dit que désormais c'est terminé et que maintenant on vit avec, on continue à vivre. Et j'ai une histoire personnelle qui fait qu'au contraire je sais très bien de quoi il s'agit. Et du coup c'est sur la base de cet échange que j'ai pu débloquer quelque chose dans l'écriture qui m'a permis de savoir où je pourrais me situer. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous sommes à Kigali à l'écoute de David, Amélie, Cécile ou Jean Delacroix. Ils participent à l'atelier d'écriture proposé par Olivia Rosenthal à partir des archives du Centre Iriba sur l'histoire du Rwanda. Ce travail de création à partir de la mémoire des autres passionne Marianne Hirsch, spécialiste de la transmission des traumatismes.
Je me demande si... qu'est-ce que ça veut dire pour vous de partager cette histoire, pour vous, Rwandais, avec des Français qui viennent d'ailleurs, qui repartent chez eux, qui ne doivent pas vivre sur place. Je suis sûre que vous êtes tous tout à fait changés par cette expérience, mais c'est tout de même différent.
À mon avis, ou bien de mon côté, ça, j'ai un peu découvert moi aussi, parce que, comme Olivia l'a vraiment dit, je suis née en 95. Je suis née en plus en dehors du pays, j'étais pas au Rwanda. Et puis mes parents sont revenus de l'exil après. Donc j'ai un peu vécu des trucs bizarres, carrément. Je suis de la post-mémoire, mais j'ai été confrontée à l'exil, étant petite. Et puis revenant ici, j'ai eu un problème d'identité et tout ça. Donc pour moi, en rapport avec le génocide ou bien les expériences vécues pendant le génocide, j'ai découvert ça ici, donc par le témoignage d'Élise, par le témoignage de Jean Delacroix et aussi Jean-Paul. C'était vraiment fort. Et puis il y avait aussi le fait que bon, ça faisait un peu de temps que je venais de perdre ma mère, donc là, comprendre la souffrance des autres. Donc à chaque fois, j'essayais de comparer avec la mienne et tout ça. Et puis, à un moment, ça a été dur, je l'avoue, ça a été vraiment dur. Et puis, à un moment, j'ai même craqué. Une fois, Olivia, je pense qu'elle le sait plus que les autres. J'ai vraiment craqué parce que je ne comprenais plus, je ne voulais vraiment plus avancer.
Alors, je me demande quel est votre rapport à... cette générosité que vous avez de prêter votre histoire, de partager votre histoire avec ceux qui viennent d'ailleurs.
Et là, n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo mwicare muganire nabyo ubwabyo birakugora kubera ko
ce que je voulais dire, c'est que en expliquant le fait qu'ils sont des étrangers, même entre Rwandais, c'est difficile de discuter, surtout sur le génocide, parce que le génocide, c'est un truc si difficile à parler, c'est un truc qui est un peu qui rend le silence.
Olivier Yazan a une vidéo technique,
à un certain moment, Olivia nous a demandé de travailler dans une technique concrète. Dans une forme. Et puis, à ce moment-là, moi, je voulais donner mon témoignage, je voulais écrire comme je veux. Donc, quand j'ai eu une telle confrontation, une telle contrainte, j'ai voulu vraiment arrêter. Surtout que, à part que ce sont des Blancs, ou bien des étrangers, en plus de ça, c'était des Français, ce qui ne facilitait pas du tout la tâche, en connaissant l'histoire qui est entre le Rwanda et la France. Par exemple, quand la zone turquoise est entrée dans le pays, ça faisait une semaine que je sortais de la fosse commune. C'est vrai?
Bah oui.
Ça faisait une semaine que je venais de la fosse commune. Donc, c'est là qu'il était.
Ils
Et puis la zone turquoise venait pour soutenir le côté des miliciens, des tueurs aussi.
On a garuki zanga nokuba ntavugiye mu ishuri kuko nyuma yaho nasubiye mu ishuri ariko iyo twajyaga kwiga igifaransa narasohokaga.
Donc j'ai eu une colère intense tellement que même à l'école quand il s'agissait du cours de français je sortais, je voulais pas du tout y aller.
Mais ntabwo ari ibanga nicaranye igihe kirekire na Assumpta.
Il dit qu'il s'est assis vraiment à un bon moment avec Assumpta en train de discuter. Bon, c'est là que j'ai maintenant compris la façon de Livia et sa façon de travailler. Merci.
Donc à la fin de ce chœur, vous voyez, il y a la musique. La musique de la pirogue. Puis, je dis ça pour Jean de la Croix, la pirogue.
Est-ce que tu vois, dès qu'il n'y a plus de musique, en fait, tu peux commencer à te lever.
D'accord, mon vieil.
Plus fort.
D'accord, vous dites qu'il y a une chose, vous dites qu'il y a une chose à qui vieil.
D'accord, cher père. Je me rappelle de toi.
D'accord, on est les milliers de fois, il y a une chose. Vous avez dit qu'il utura umwari utagira umwaga umupfasoni watse byose bazagusanga ise shenge ko ari hani wacu gacunamanga twejeje imyaka urukundo rurese kandi nutabisanga ugiye ntibizagutera gahinda uzatera guzuga ro kudusanga.
Tu disais tu es une fille radieuse, une souveraine. Où pourrait-il trouver quelqu'un comme toi si ce n'est ici à Gacunamanga? Nous vivons dans l'abondance et l'amour avec des greniers remplis de vivres. Si tu ne trouves pas tout cela dans ta nouvelle demeure, n'aie pas de chagrin. Rebrousse chemin et reviens parmi nous.
Ndakuri butashye hari ni mugoroba. Mufite inkuru nziza yuko natsinze ikizamini cyo kujya kwiga muri FAC. Ndibuka ko bukeye bwaho wanguriye igare dino. Buri kiruko cya Pasika n'izi gare hamwe n'agakecuru.
Je te revois encore rentrant le soir. Je t'attendais impatiemment pour t'annoncer fièrement que j'avais réussi l'examen d'admission à l'IFAC. Le lendemain, tu m'as acheté un vélo de la marque Dino. J'ai passé toutes les vacances de Pâques à apprendre à rouler avec Kakechul.
Quand on convoque le passé, ça ne passe jamais facilement.
Assumpta Mugiraneza dirige le centre Iriba, à l'origine de la participation des jeunes Rwandais à l'atelier d'écriture.
C'est tout à fait normal que ces ateliers soient douloureux, pas seulement pour Jean de la Croix. C'est pour tout le monde à différents moments. Et quand on a constitué le groupe de jeunes qui allaient participer, on leur a dit que nous étions là. Quelqu'un comme Jean de la Croix, c'est quelqu'un qui est sensible, mais qui ne veut jamais tricher avec lui. Il est arrivé parfois qu'il lâche des morceaux de texte ou de pensée qui étaient difficilement accessibles, même aux rwandophones qui ne savent pas entendre ce langage-là. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est d'être là toujours avant les ateliers et surtout dans l'après-atelier. Il fallait être là, il fallait garder le groupe ensemble et il fallait entendre. Parce que ça a créé des cheminements, ça a réveillé des choses. Quand Jean de la Croix doit écrire cette lettre à son père, qu'il est obligé de traverser sa colline par la pensée, après il a éprouvé le besoin d'y aller. Il fallait quelqu'un pour l'accompagner. Natacha, qui est solide, notamment quand elle lit le texte sur la géante, Natacha a eu besoin à un moment donné de quelqu'un qui l'écoute. Donc, moi, je n'ai fait que mon rôle d'accompagnatrice, qui est celui d'Iriba. Iriba est bâti sur deux piliers essentiels. C'est de créer des espaces de parole et accompagner le processus de réappropriation de l'histoire. Ça, c'est pour ça qu'on a accueilli ces ateliers. C'est pour ça qu'on s'est donné sans compter pour que ceux qui s'y étaient engagés soient solidement porté et qu'ils nous sentent continuellement là. Parce que pour les jeunes Rwandais, ce n'est pas seulement une histoire d'écrire.
Mmh.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde à Kigali, à l'écoute des jeunes Rwandais, des jeunes Français des ateliers de la mémoire, orchestrés par la dramaturge Olivia Rosenthal. En musique ou à voix nue, en chœur ou en solo, ils présentaient leur partition littéraire en décembre dernier à l'hôtel des Mille Collines. Après Bruxelles et Paris, c'était retour à Kigali.
Un jour passa, une nuit passa, et le lendemain, Bertrand Doutier était assis dans sa maison, en train de discuter avec sa femme. Et sa femme vient de se lui passer et elle dit à son mari.
As-tu vu la souris ?
Oui, je l'ai vue. Elle venait du côté gauche.
Non, elle venait du côté droit.
Non, je crois que tu n'as pas bien vu. Elle venait du côté gauche.
Depuis le temps, tu n'écoutes toujours pas.
Bon, j'aimerais continuer à raconter l'histoire de Bertrand Doutier, mais elle s'arrête là. C'était un héros à Hérumogan.
À travers l'écriture, à travers la création, l'idée c'était d'interroger le passé. Je voulais que les ateliers se passent non pas dans une école des beaux-arts ou dans une université ou dans un centre culturel, je voulais que le lieu de pensée et de création se fasse dans un centre d'archives.
L'archive comme matière première de l'atelier de création, c'est un principe initié au Cambodge par l'historienne de l'art Soko Phai et le cinéaste de films documentaires Riti Pan au centre de ressources du visuel Bopana. Mais importer le concept des ateliers du Cambodge au Rwanda n'est pas si simple, car si l'image domine dans la culture asiatique, elle est au contraire absente de l'expression rwandaise. Dans cette quête de sens, Soko Phai s'est naturellement tourné vers Assumpta Mugiraneza et le centre Iriba, ce qui signifie la source en Kinyarwanda.
Je savais que le centre Iriba, c'était la petite sœur du centre Bopana. Je connaissais déjà Assumpta Mugiraneza et Anna Guillon auparavant. Elles m'avaient relaté leur voyage au Cambodge, qu'elles avaient rencontré Riti Pan, etc. Et en parlant avec Assumpta, Assumpta très vite nous a dit « c'est pas possible de mettre en place des œuvres plastiques, des œuvres visuelles, mais qu'il fallait travailler sur le verbe entendu comme la poésie, la prose, l'écrit, etc. » Et j'avais repris le même dispositif qu'au Cambodge, c'est-à-dire choisir une douzaine de jeunes créateurs, parce que pour nous, ce n'était pas un atelier pour leur apprendre à peindre, à dessiner ou leur apprendre à écrire, mais de les pousser, de les amener loin dans la création.
Précisément, quelles archives avez-vous proposé ici au Rwanda, aux jeunes Rwandais et aux quatre Français qui ont participé à l'atelier de la mémoire ?
Au départ, lors du premier atelier, c'est-à-dire en février 2015, on a privilégié les exercices. Assumpta avait proposé de projeter des photographies anciennes, en noir et blanc, qui dataient 1916-1917, c'est-à-dire au moment de la colonie allemande. Et donc on a au départ demandé aux jeunes d'écrire un court texte d'une dizaine de lignes sur une même image photographique. Et ensuite, c'était lu, commenté ensemble, etc. Ensuite, la deuxième étape, c'était qu'ils choisissent, eux, leur archive, leur photographie, parmi ces trentaines de photographies qui étaient mises à disposition au centre Riba, et puis chacun pouvait s'approprier, écrire ce que chacun avait envie sur ces images. Et ce qui m'avait marqué, c'est que beaucoup avaient écrit à travers une image où on voyait la beauté des mille collines, la splendeur d'un Rwanda qui a été perdu.
Nilitembe ya sana na maisha niliyo Leoni me alika ma isha ma piao Iaja upendo la tumaini Ili moyo o akusi jute Data singiti nukundi Data singiti nukundi La isenu imbabazi nubuzima
Je suis très, très heureuse, très fière des créations des jeunes, du parcours qu'ils ont fait et que ces textes dépassent les souvenirs de chacun, dépassent le témoignage de chacun pour créer des œuvres littéraires. Ça m'a amené à réfléchir la place de l'archive dans le travail de mémoire. Et je me suis dit, voilà, que les jeunes, en se réappropriant l'archive, c'est pas d'utiliser l'archive comme preuve matérielle qui dénonce qu'il y a eu génocide, mais que l'archive pouvait être témoin. Une archive qui raconte et qui interroge. Et que l'archive ne vit que si nous portons un regard sur ces archives et que nous le questionnons et que nous le réapproprions, le travaillons de manière subjective et c'est ça qui est pour moi important, c'est que ces jeunes lorsqu'ils regardent le passé, ils ne se sentent pas seuls et surtout qu'ils puissent réintégrer ces expériences traumatisantes dans leur parcours de vie et ensuite d'aller de l'avant, construire un avenir. On peut construire un avenir que si on est suffisamment réconcilié avec le passé. Et que d'une certaine manière, ces œuvres archives, aussi bien au Cambodge qu'au Rwanda, c'est de retrouver pleinement une forme de présence. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est-à-dire c'est le fait de trouver du sens par rapport au passé leur permet de savourer une présence.
Rafiki, upenzi wangu.
En parlant d'archives, entre guillemets, je pourrais dire que j'ai utilisé entre autres une chanson que mon père avait composée en 83, lorsqu'il voulait faire partie d'ailleurs du concours RFI Découverte 86.
Samuel Kamanzi est chanteur, guitariste, rwandais et congolais. Il signe la musique du spectacle Retour à Kigali.
Son nom de scène, c'était Jim Marley. Et le titre de la chanson s'appelle Rafiki. Et ça parle d'une amitié, ça parle de l'importance de vivre ensemble, l'importance de rester soudé, peu importe les aléas de la vie, peu importe les difficultés de la vie, d'avancer toujours, de ne pas s'arrêter face aux obstacles, mais de les surmonter, de pouvoir avancer.
Et comment avez-vous, Samuel, revisité cette chanson, qui est votre archive à vous ?
Je l'ai. C'est une chanson que j'écoutais quand j'étais petit. Et je suis parti des bribes de mémoire que j'avais. Et après, je suis tombé sur des archives audio et cassettes que mon père avait enregistrées. Et c'est de cette manière-là que j'ai retravaillé la chanson Rafiki, qui a donné la version que je présente dans la pièce.
Lakini sirudi nyuma angalia tu mbele kule vone maji inaja wanasema mutu na mutu njia yake kila mutu peke yake tuunganishe macho yetu ni furaha aya 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 oh mutu na mutu njia yake kila mutu peke yake Unganishe macho yetu ni furaha Haya, haya, haya
La musique, elle a une grande place effectivement dans ce processus, dans mon processus à moi, en tout cas dans ce travail-là, non seulement dans la culture, parce qu'elle contient énormément de valeurs, énormément de choses, étant donné que le Rwanda reste de culture orale, Et dans ce sens-là, donc, cela permet de pouvoir retrouver des éléments aujourd'hui qui ne nous ont pas été accessibles. Et c'est dans cette même dimension d'ailleurs que pour ce projet Retour de Kigali, ici à Kigali, avec Assumpta, il y a eu l'envie de pouvoir travailler avec une grande chanteuse rwandaise, Immaculée, qui vraiment possède ce bagage, cet héritage musical traditionnel très 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 fort. Pour moi, ça a vraiment été un grand honneur de pouvoir travailler avec elle, de pouvoir faire le lien, de pouvoir vraiment recevoir cette forme de transmission directement à travers ce projet.
Retour à Kigali est une pièce chorale où la parole circule. Le montage des textes, librement inspiré des archives, mais aussi des témoignages des rescapés de 1994, multiplie les variations sur un même thème, le génocide. Mais il n'en raconte pas l'histoire. De la réalité à la fiction, ce que chacun a dit revient comme un refrain.
Elle a dit « J'ai écrit une prière pour les morts ».
Il a dit « J'ai joué le rôle du père ».
Elle a dit qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant.
Elle a dit qu'avant de se confier, elle voulait savoir à qui elle avait affaire.
Il a dit que l'apparence d'un interlocuteur ne donnait pas d'indication fiable sur son identité.
Elle a dit que l'éducation n'avait servi à rien.
Il a dit « Celui qui a la chance d'échapper à la foudre peut le raconter ».
C'était une opportunité extraordinaire de pouvoir travailler avec cet écrivain qui est Olivia Rosenthal, qui est en même temps enseignant. Elle sait comment on écrit. En plus, sa façon d'écrire ne vient pas directement sur la grande histoire. Elle aime passer par des faits qu'on pourrait dire à côté. Elle était là. Elle a son expérience, elle a son savoir-faire et elle avait accepté de porter ses ateliers de la mémoire avec son expertise. Et ça a été quelque chose d'unique pour nous. C'était une chance inouïe de pouvoir l'avoir. Autre chose, elle a été vraiment fidèle et n'a jamais manqué à aucun rendez-vous durant la période des ateliers.
Peut-être, Amélie, tu aurais quelque chose à dire, parce que ton texte, c'est le texte qu'on lit à la fin, là, sur la jeune fille qui est sur une barrière.
Ma sœur, au début, il y a une jeune femme assise sur une barrière.
La plupart des gens sont en tailleur par terre, sous un arbre, mais elle s'est perchée là. Du bout des doigts, elle masse la racine de ses cheveux. Comment les choses ont-elles pu devenir si compliquées? Les cris qu'elle entend au loin lui rappelle un corbeau à gilet blanc qu'elle a connu, qui volait à reculons dans le ciel, criait son cri à l'envers et avait fini dans un œuf.
Sous l'arbre.
Désormais, quand je parle, ça n'est plus moi qui parle.
Sous l'arbre.
Tout le monde va devoir y aller. Pourquoi? Pour qu'on devienne utile. En nous pardonnant, on veut nous faire participer. On va nous faire venir. On va nous pardonner et nous punir, et enfin, on va nous organiser.
Sous l'arbre.
Moi, je n'ai aucun mot. Je ne me souviens que des bruits. Ma sœur, elle, a tout vu.
La dernière idée qui me soit venue pour tenter de maîtriser un tant soit peu les trajectoires de ma sœur.
La poser sur la barrière.
C'est le film d'Anne Aguillon qui s'appelle Mon voisin, mon tueur. Il y a des images qui ont servi à mon texte, et aussi j'ai demandé à plusieurs participants rwandais de me traduire des mots, par exemple le mot même de Gachacha, pour comprendre comment je pourrais le traduire en français dans mon texte et que ça ait un sens à la fois pour un auditeur rwandais et aussi pour nous, de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne singulière, au lieu de s'asseoir sous l'arbre avec tout le monde, assise sur une barrière, pourquoi est-ce qu'en fait la raison pour laquelle elle fait pas comme tout le monde, c'est peut-être qu'elle n'est pas aussi vivante que les autres, ou je sais pas. C'était une tentative de partir de ce film pour créer un personnage qui puisse être à la fois rwandais et pas rwandais du tout.
On ne sait pas très bien si c'est un texte écrit par un rwandais, si c'est un texte écrit par un français, et c'est ça qui fait qu'il est... Il ouvre vraiment l'imaginaire. Et c'est ça aussi, cette relation au sujet qui pourrait être une relation pesante. Et en fait, on voit comment chacun des participants a trouvé un espace de liberté en utilisant l'écriture. Et moi, c'est ça que je trouve hyper beau dans le travail qu'ils ont fait, c'est que ça justifie, on pourrait dire, aussi la littérature, quoi. C'est-à-dire que cet endroit de liberté-là, personne n'a pu le leur ôter, et ils l'ont pris, et ça a été très long quand même, hein. C'était très difficile à prendre comme endroit. Je me souviens que c'était pas du tout facile de déplacer les choses de ce côté-là, et que j'avais un peu l'impression quand même de temps en temps de leur forcer la main. Enfin, gentiment, mais voilà. Et avec cette espèce de... J'avais décidé que je le ferais, et comme je suis assez obstinée, je fais ça, mais c'est vrai que c'était quand même très délicat. Et en fait, voilà, chacun des participants a finalement eu envie quand même à un moment d'accepter cette contrainte. C'est très fort comme contrainte, hein, ce que vous avez accepté.
Ça, c'est très vrai. Dans la mesure où quand ici on parle d'écrire, on ne sait pas si c'est un journal intime de quand on avait 12 ans, on ne sait pas si c'est une retranscription, on ne sait pas si on va... témoigner en essayant de mettre en ligne les différents moments de vie. Et Olivia est venue les secouer un peu, si je peux me permettre de le dire. Elle les a secoués, elle leur a dit « c'est bien, maintenant qu'on a vécu des moments qui ressemblent plus au témoignage de vos histoires familiales, il faut prendre la distance ». Il faut essayer d'entrer dans la fiction. Et quand elle parlait de la fiction, certains venaient me voir après au bureau en me disant « mais c'est pas possible, pourquoi devrions-nous entrer dans la fiction alors qu'on a nos histoires véritables qu'on voudrait écrire ?»
Je suis venue d'ailleurs, je ne suis pas d'ici. Je suis de cette nationalité-ci, mais j'ai vu le soleil sous un autre ciel. Je suis de là-bas, je viens de ce pays-là. À mon école, on me disait que j'avais une peau trop foncée pour une rwandaise. On me donnait tant de raisons qui expliquent que je ne suis pas rwandaise. Et ça me rappelait comment au Burundi, on me répétait que c'était visible que je suis rwandaise, que mes grosses fesses me classaient. J'ai fini par accepter ma double identité ou mon manque d'identité. Je suis la rwandaise au Burundi et la Burundaise au Rwanda.
Donc le texte de Cécile, c'était hyper bien, tu l'as beaucoup beaucoup mieux lu. N'oublie pas de ne pas baisser ta voix quand même vers la fin. Ça, c'est pour tout le monde. En général, le risque, c'est que quand vous avez un long texte, ou même quand il n'est pas très long, il faut être tout de suite, hein, désiré, il faut être tout de suite, il faut que tu ailles capter ton auditoire. On a le sentiment que tu es obligé de faire plusieurs phrases avant d'être dans ton texte. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs phrases. Il faut que dès la première phrase, tu sois dans ton texte. Il y a ce truc-là, c'est-à-dire l'attaque. Donc il faut vraiment penser à garder cette intensité. Voilà.
S'interroger sur le génocide ici, c'est extrêmement douloureux. Et donc, par le biais de la création et de la réflexion autour de la question du génocide, permettait que chacun puisse trouver sa place par rapport au passé.
À l'initiative des ateliers de la mémoire au Rwanda, Sokofay a suivi et observé l'évolution de l'écriture des jeunes artistes rwandais et français.
Et je dois dire que l'effet de groupe a énormément compté pour se soutenir les uns les autres, pour accompagner chacun, vraiment aller très profond en eux-mêmes, pour sortir des souvenirs extrêmement pénibles, extrêmement douloureux, et qui nous ont donné en partage. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'ils nous ont donné. Je pense que si on peut être fier du travail mené ensemble dans le cadre de ces ateliers de la mémoire à Kigali, c'est de les voir évoluer, de les voir plus apaisés d'une certaine manière, et que surtout qu'ils aient le sentiment qu'ils ne sont pas seuls. Pas seuls dans leur douleur, qu'ils peuvent en parler, que c'est une parole partagée, et à travers le travail d'écriture et à travers la mise en scène, le fait de jouer en public ensemble permettait justement de créer cette une enveloppe rassurante où chacun sorte de sa propre solitude, parce qu'un génocide isole, un génocide détruit les liens. Détruit les liens de confiance, détruit les liens sociétaux. Donc ce travail d'atelier, c'était aussi retisser les liens entre les uns et les autres.
En fait, du fait de travailler ensemble, on a créé une atmosphère vraiment à nous, de groupe, qui était un peu éprouvante, parce qu'on pleurait beaucoup, on riait beaucoup en même temps, à peu près. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose de ça qui est ressorti dans mon texte.
Mm-hmm. Tout ce que j'ai essayé d'écrire ou de partager avec les Rwandais, tout comme avec les Français, m'a aidé de me poser la question: comment tu peux écrire ou comment tu peux raconter l'histoire du génocide, l'histoire douloureuse aux personnes qui n'ont pas vécu la situation. Donc ça, c'était une question que je me posais. Et est-ce que, par exemple, ils ne vont pas penser que j'exagère?
Est-ce que, Élise, à travers cet atelier, tu as le sentiment aujourd'hui de pouvoir raconter ton histoire autrement et du coup de pouvoir la raconter à tout le monde à travers ton texte?
Je ne crois pas, puisque au départ, il y avait aussi une inquiétude. Comment on va écrire? Donc, quoi à écrire et quoi à ne pas écrire? Mais Olivia nous a dit que il faut écrire ce que tu veux.
Alors, vas-y.
J'ai envie de redevenir cette gamine qui jouait à cache-cache, qui sautait à la corde. J'ai envie de me cacher. Cache-cache, pour me cacher de la mort. Cache-cache, juste pour jouer. Cache-cache, pour cacher ma douleur. Cache-cache, pour cacher mon chagrin. Je n'arrête pas de jouer à cache-cache. Je ne chante plus Mbekanyamanza Keza. Je chante plutôt Mibutisekuyuka. Je ne saute plus à la corde. Je ne joue plus aux déjeunettes. Je ne mange plus Misigati. Je ne mange plus des bananes mûres. Je ne bois plus de jus. J'ai envie de sauter par-dessus le passé.
Mbese Murao, qui est une chanson qu'on a composé avec un groupe dont je fais partie.
Samuel Camanzi.
Qui traite justement sur la thématique du génocide. Et c'est un rescapé qui s'adresse à ses parents qui sont morts. Et il leur demande si de là où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils vont bien. C'est même la question Mbese Murao. Est-ce que vous allez bien là où vous êtes? Parce que lui, de son côté, ici sur Terre, lui qui est resté survivant, il a choisi de pardonner, il a choisi d'avancer, il a choisi de se nourrir de cet héritage que ses parents ont laissé. Et il a choisi de les rendre fiers de là où ils sont, de célébrer leur mémoire, de célébrer leur vie à travers tout ce qu'il a, il a reçu d'eux.
Je suis très, très heureuse, très fière des créations des jeunes, du parcours qu'ils ont fait et que ces textes dépassent les souvenirs de chacun, dépassent le témoignage de chacun pour créer des œuvres littéraires.
Et Olivia a été vraiment le moteur de cet avancement. Et il ne faut pas oublier non plus Dorcy Rugamba, qui était là à certains ateliers, qui a fait l'accompagnement par Skype, qui a fait l'accompagnement par des mails échangés, parfois par des traductions. Donc c'était une rencontre extraordinaire et je n'ai pas envie d'oublier l'apport des jeunes Français qui finissent le master de création littéraire, donc qui ont les techniques d'écriture beaucoup plus affûtées. Et ils ont accepté de travailler ensemble. Chacun essaya d'apporter la petite chose qu'il avait en plus. Et le fait de dire, ne vous en faites pas, vous y arriverez. Aujourd'hui, demain, plus tard. Et ce que vous avez fait est déjà énorme.
Retour à Kigali. C'était un épisode documentaire de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et mis en onde par Elliot Bourrel. Tous mes remerciements à Olivia Rosenthal et à tous les participants de l'atelier de la mémoire. Amélie, Jean Delacroix, Élise, David, Cécile, Samuel, Immaculée et toutes celles et ceux qui ont accepté ma présence à Kigali. Ce documentaire n'aurait pu exister sans le soutien d'Assunta Mugiraneza, directrice du centre Iriba, et de Soko Faye de l'Université de Paris 8. N'hésitez pas à nous écrire, réagissez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre. Mmh.